Bonsoir et bienvenue à vous. Des soldats et des lettres qui vont nous emmener il y a 100 ans au temps de la Grande Guerre. Poitiers, 1er avril 1917. Deux mots, car je ne voulais même pas vous écrire. J'ai passé la visite aujourd'hui, je suis apte pour aller voir les Boches. Nous étions presque tous bons pour aller au front. S'il n'y a pas de nouveau, je pars avec Théo et bien d'autres d'Angers.
Entre nous soit dit, Lydia Gabor.
Le quotidien du front, à travers 800 lettres d'un jeune soldat, découverte par notre invité. Que disait la première lettre ?
Qu'il avait très peu de temps pour écrire à sa mère, parce qu'il venait d'arriver et qu'il avait beaucoup de choses à faire. Il est très fier dans la première lettre. Il est très fier d'être là, d'être arrivé à Poitiers. Il a monté les 218 marches de la caserne. Des soldats sont venus le chercher à la gare. Et maintenant, il a une belle chambre avec la vue sur la ville et la rivière.
Nathalie Pfeiffer, vous êtes comédienne, metteur en scène, et vous avez fait en 2012 une découverte. Vous avez découvert des lettres d'un soldat d'ici. Quel était son nom et comment vous avez fait cette découverte ?
Constant Boré est le père de Jean-Claude Boré, qui est un photographe de notre région, qui habite à Chèbre. Et moi, j'étais en contact avec ce photographe qui, tout d'un coup, m'a dit incidemment qu'il avait 800 lettres de son père, qui était donc poilu, comme on dit aujourd'hui. Donc j'ai été voir ces lettres, et le fait de les toucher déjà, de voir l'ensemble de lettres, ça fait 4 classeurs fédéraux quand même, hein, 800 lettres, ça fait une drôle de masse. Et le fait de les toucher, de les avoir dans la main, d'avoir ces petits formats, de voir cette écriture parfois au crayon, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et donc j'ai eu envie de les lire et puis de les saisir pour en faire quelque chose.
Comment justement ils les avaient gardées ? Donc ça veut dire que la famille a gardé ces lettres, donc elles avaient une valeur particulière parce qu'elles venaient de la guerre.
Oui, parce que ces lettres étaient adressées donc à sa mère et à sa sœur qui habitaient ensemble. Et puis bon, je pense que comme à l'époque il y avait encore de la place dans les maisons, elles sont restées dans un grenier, j'imagine. Il y a eu le décès de la maman et puis le décès de la sœur, et c'est donc le fils qui a hérité des lettres au décès de la sœur de sa mère. Donc du coup, elles sont restées là, voilà, c'est comme ça qu'on les a eues.
Comment se fait, donc poilu, on va préciser que c'était les soldats français en principe de la Première Guerre mondiale, mais comment est-ce que, en fait il était français, ce Boré ?
Oui, il est français.
D'accord, mais il vivait dans la région.
Alors, son fils vit dans notre région aujourd'hui.
D'accord.
C'est complètement incroyable de se dire qu'il y a encore, mais il y en a beaucoup, hein. Il y a encore beaucoup de gens qui sont fils et filles de soldats, hein. Faut pas croire.
De poilus même.
Ben oui, les gens qui ont 80 ans ou 85 ans maintenant. Bien sûr, j'ai été étonnée avec ce travail de rencontrer bien des personnes dans notre région qui, sachant que je fais ce travail, me disent, ah, mais moi, justement, et puis ils vous racontent leur histoire.
Alors, je crois que Lazare Porticelli était le dernier poilu qui est mort en 2008 ou 2009.
Ouais.
Et donc, on lui a fait vraiment honneur. Je crois qu'il est aux Invalides, etc. Donc, vous-même, vous n'avez pas pu rencontrer encore des gens qui avaient fait cette guerre.
Non.
C'était presque trop tard, mais à très peu, à quelques années.
Donc on est la seconde, on n'est plus la première main, si je puis dire. On est la deuxième main. C'est-à-dire que maintenant, on est avec les enfants des poilus et puis avec leur courrier, clairement, parce qu'il y en a eu énormément.
Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cette période ? Dans quelle mesure cette période a encore un lien avec nous aujourd'hui, à part la partie affective d'avoir ces objets dans la main ?
Écoutez, c'est pas loin. 100 ans, c'est vraiment, c'est nos grands-parents. Enfin, moi, mon grand-père, il est né en 1899. Donc
il a pu aller.
Il a pu aller à la guerre. Bon, il se trouve qu'il était suisse et qu'il n'y a pas été, mais j'entends. C'est pas si loin que ça. Et je trouve très impressionnant, juste au départ comme ça, de voir comment la vie était différente il y a 100 ans. Ça nous paraît vraiment un autre monde, quoi. Et moi, c'est vrai qu'en tant que comédienne et metteur en scène, j'aime me glisser dans la vie des gens, j'aime me glisser dans l'histoire. Je l'ai déjà fait à l'occasion d'autres spectacles. C'est comme ça. Alors, je sais pas pourquoi. Il faudrait que j'aille voir un psychiatre qui m'explique pourquoi.
Mais non, surtout pas. Vous allez plus faire votre travail.
C'est comme ça. J'aime rentrer dans l'histoire.
Alors, ce Constant Boré est parti à quel âge, en fait? Juste pour qu'on le visualise un peu.
Alors, il a été mobilisé à 19 ans. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie. On parle beaucoup des enfants soldats aujourd'hui, mais enfin, 19 ans, c'était pas bien vieux quand même. Mais son père était déjà mort depuis quelques années. Ça veut dire que ce jeune homme de 19 ans, il travaillait déjà comme serrurier dans l'atelier familial qu'il tenait donc lui-même depuis l'âge de 15 ans.
Donc il avait une certaine maturité et il y a une certaine fierté de partir à la guerre pour lui.
Oui, alors la maturité, c'est très intéressant de voir que la maturité se situe à d'autres, sur d'autres niveaux qu'aujourd'hui. Hein. Donc je pense que c'est quelqu'un hein, clairement qui n'avait jamais fait l'amour, par exemple.
À 19
alors
ans.
Que peut-être à 19 ans aujourd'hui, ils l'ont tous fait, je sais pas. Donc il était très naïf de ce côté-là, avec un côté fleur bleue, le respect de la femme, enfin des choses comme ça. Par contre, au niveau du travail, ça il assurait. Voilà. Au niveau physique aussi, je pense qu'il assurait. Et puis une certaine fierté, un courage exacerbé certainement par la société de l'époque qui encourageait les jeunes gens à partir se battre.
Enfin, et le patriotisme.
Oui, oui. Aussi. On leur donnait des armes quand ils étaient petits pour jouer aux soldats. Oui.
Et donc, on apprend à travers ces lettres effectivement son quotidien au front, mais aussi son quotidien avant. C'est-à-dire, on apprend plein de choses sur sa vie à travers ces lettres.
Oui, oui, tout à fait. Alors j'ai remarqué, j'ai lu beaucoup de lettres de Poilu depuis qu'elles sont, elles se ressemblent. Hein. Il y a aussi, j'allais dire historiquement, une façon de faire une lettre en 1900.
Qui est différente d'aujourd'hui, c'est pas un mail.
Voilà, qui est différente d'aujourd'hui. Donc on va demander à la personne comment est sa santé. Parce qu'on
c'est voit très important.
C'est très important. Donc ça, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On demande évidemment des nouvelles de la famille et notamment des plus âgés, hein, de la tante Jeanneton, de l'oncle Augustin. Ça, dans chaque lettre, ça revient, mais c'est comme un gimmick qui revient tout le temps. C'est-à-dire que
c'est la politesse c'est... aussi.
Tout à fait. Et à la fin, les salutations en disant qu'on aime les gens. Enfin, ça, c'est important. Puis au milieu, il y a le corps du texte qui change chaque jour. Et qui lui raconte d'une part effectivement le quotidien. Après, il y a toutes les choses qu'on peut pas raconter, qui sont les entrelignes,
hein, qu'on comprend.
Comprend. Et très peu de sentiments personnels encore. Hein. On n'est pas en 1970 dans les journaux intimes et tout ça. On est encore dans quelque chose d'assez pudique.
Donc il se plaint pas.
Jamais.
Il n'a pas peur et il dit pas qu'il s'ennuie. Enfin, il est digne.
Voilà, il reste très digne, ouais, absolument.
Sur les 800 lettres, vous en avez lu combien ?
J'ai lu les 800 parce que je les ai saisies. Donc je les ai lues toutes, mais c'est très ennuyeux.
Au bout d'un moment.
Bien sûr, il faut arriver à synthétiser et à tirer la quintessence de ça.
Et c'est ce que vous avez fait comme travail. Donc maintenant la question est comment ces lettres sont devenues une pièce de théâtre ?
Il fallait d'abord les numériser, ça c'est sûr. Hein. J'ai parlé avec Jean-Claude Boré, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire de cet héritage, au sens, philosophique du terme, pas au sens pécunier bien sûr. Et puis il m'a dit j'en sais rien, et là j'ai dit mais si on veut en faire quoi que ce soit, même si tu veux les transmettre à tes enfants, il faut les mettre sur un support qui soit possible aujourd'hui.
Et qu'on puisse les lire aussi.
Et qu'on puisse les lire. Donc je lui ai proposé de les saisir, de les dactylographier, comme on disait autrefois. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça prend des années. Et en faisant ça, je suis rentrée dans le quotidien de Constant Boré. C'est comme ça que je suis rentrée dans son quotidien. Et le côté rébarbatif est important aussi. Le côté répétitif.
Son quotidien était très répétitif.
Mais bien sûr, ces soldats, ils ont aussi attendu beaucoup, avec la peur au ventre, mais ils ont attendu beaucoup. Ils ont travaillé beaucoup, fait des travaux de terrassement, d'ingénieurs, de tas de choses. Quoi. Toute la journée, ils travaillaient. Donc, ils ont souffert, bien sûr, du froid et tout ça. Donc, mais ça, ils s'en plaignent peu, mais on le sent en filigrane. Donc, tout ce côté répétitif, c'est très important aussi.
Comment vous avez choisi les lettres pour votre spectacle ? Évidemment, il n'y a pas les 800 lettres dans le spectacle.
Non.
Évidemment pas. C'est quoi ? Une trentaine, une quarantaine de lettres ?
Même pas, c'est 15 lettres.
15 lettres, d'accord. Et donc, vous avez
fait
un choix.
C'est très difficile.
C'est très difficile.
C'est difficile, c'est affreux. Parce que 800 lettres, en réalité, c'est beaucoup trop. C'est comme une Bible. c'est un corpus. Si on donnait ça à un historien ou à quelqu'un qui faisait de la géographie de guerre ou à quelqu'un qui fait une thèse sur la psychanalyse, la résilience du sauveur, on aurait des spectacles complètement différents et des travaux complètement différents. On peut tout faire avec ça. On peut vraiment tout faire. Donc
vous avez fait un choix plutôt affectif.
Oui, il faut. Alors c'est vrai que l'ordinateur, le fait que ce soit numérique, c'est très pratique parce qu'on peut faire des recherches par thème. On a un champ de recherche et puis si on cherche ses amis, par exemple, on tape un prénom puis on voit combien de fois il l'a cité. Par exemple, l'adjectif merveilleux, il l'utilise en 1918. Dans une lettre où il parle du dernier poste où il est, et j'ai regardé combien de fois il l'a utilisé, deux fois seulement dans toutes ses lettres.
C'était pas si merveilleux.
Donc quand je parle aux comédiens, je dis, voyez, si vous dites merveilleux, c'est pas anodin dans la bouche de ce monsieur.
Alors le spectacle s'intitule 1916, ciel bleu à l'horizon. Pourquoi ce titre?
Alors ça fait référence au costume bleu horizon, bien sûr tout le monde connaît l'histoire des pantalons rouges de 1914, et en 1916 on a changé l'uniforme pour un uniforme qui s'appelait bleu horizon. Et ce terme de bleu horizon, ça va aussi avec le courage qu'il avait en partant. C'est le thème, c'est la désillusion finalement, c'est comment un enfant devient adulte, comment un enfant se construit dans la guerre en réalité. Ou comment il se déconstruit dans la guerre.
Il est revenu de cette guerre?
Il est revenu, ça c'est évidemment miraculeux, donc il y a évidemment un sentiment de culpabilité qui naît, mais après ça, il est revenu, mais il est revenu différent. C'est-à-dire que cette guerre, ben, l'a construit, vraiment, pour toute sa vie. C'est dingue de se dire qu'on va passer 16, 17, 18, 19 ans dans une famille, dans une vie, puis tout d'un coup il va se passer 2 ans, et quelque chose, ou 3 ans, et quelque chose pendant ces 3 ans va déterminer toute la suite de votre vie. Mais c'est le cas de beaucoup de gens, hein, ceux qui ont dû fuir leur pays, ceux qui ont vécu une guerre.
Enfin. Est-ce qu'il y a eu d'autres lettres du moment de son retour où vous avez pu suivre un petit peu son développement?
Non, alors il y a une partie mystérieuse bien sûr dans la vie de cet homme, et c'est typiquement les 10 ans qui ont suivi son retour de guerre, puisque quand il est rentré en 1919, en août 1919 quand même, c'est pas du tout à la fin de la guerre, c'est beaucoup plus tard, il y a 10 ans, on ne sait plus rien. Jusqu'à la naissance de ses enfants.
Et là, vous l'avez eu par le fils, en
Alors
fait.
Après, la suite, c'est témoigné par le fils, voilà.
Bien sûr. Oui. Donc, on va redire que vous êtes Nathalie Pfeiffer, vous êtes comédienne et là, metteur en scène. Vous jouez dans ce spectacle?
Oui, je vais jouer quelques petits rôles, mais pas... Je suis surtout metteuse en scène de 10 comédiens, 10 gaillards, 2 jeunes filles formidables. Et on va faire quelque chose de très visuel, comme une épopée, quelque chose qui soit accessible à tous. Et c'est pas du tout simplement des lettres lues sur un plateau.
C'est une mise en scène, vraiment.
C'est vraiment, oui, c'est quelque chose, je veux quelque chose de beaucoup plus vivant.
Alors donc c'est 1916, ciel bleu à l'horizon, ça va se jouer
au Théâtre de l'Oriental à Vevey, du 26 avril au 7 mai, et puis à Lausanne, à l'espace culturel d'Hétéro, le jeudi 11 mai, avec un débat ensuite, et le vendredi 12 mai. Et puis j'ai deux scolaires.
D'accord. Et peut-être, qui sait, une grande tournée européenne.
Peut-être.
Donc Nathalie Pfeiffer, vous êtes avec nous jusqu'à 21h. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la première.
La feuille qui va sortir fait tout sauter, tout partir. Ça pousse, ça va, oh, oh. Les bourgeons vont éclater, les vertus vont trébucher. Ça pousse, allez, sortez. Sous les rayons excitants du printemps, dans la nature tout craque, se détraque. Les oiseaux lancent dans l'air leur chant clair. Les chiens cherchent avec ardeur une âme sœur. Les pourceaux deviennent polissons, folichons. Les vaches fixent l'oreille, passent le train qui passe. Et les jeunes amoureux, comme des chats langoureux, mènent dans les chemins creux leurs petites chattes. V'là le printemps, ça vous agace, ça vous gratte. Là, le printemps, on est agité tout le temps. Car l'herbe qui veut sortir fait tout sauter, tout partir. Ça pousse, ça pousse, ça va. Ah, ah. Les pommes vont se former, les fraises vont se montrer. Ça pousse, ça pousse, valet, pointez. Mais il ne dure qu'un temps, le printemps. Tous ces élans de jeunesse font que ça cesse. Le cœur des femmes est satisfait. Mais on sait qu'ici-bas, sans être expert, rien ne se perd. Le bonheur qu'on a semé a germé, puisqu'elles ont du remplissage dans le corsage. Adieu les tailles faites autour, adieu le plaisir de l'amour. Il leur vient de jour en jour une petite bosse. C'est le printemps, chacune aura son petit gosse. Peut-être deux en même temps. La graine qui va sortir fait tout sauter, tout partir. Ça pousse, ça pousse, ça va. Ah, les nénés vont se gonfler, les bébés vont se régaler. Ça pousse, valet, pépé.
Esther Lequin sur la première, ça pousse et c'est votre choix, Nathalie Pfeiffer.
Oui, c'est pour montrer un petit peu
c'est d'époque aussi.
L'époque, l'insouciance. Alors, il y avait un côté naïf dans ces années-là. Enfin, naïf, j'en sais rien.
Vous croyez qu'aujourd'hui, on pourrait plus faire un morceau sur le printemps?
On fait pas un morceau sur le printemps, ça pousse, ça pousse. Alors, dans mon spectacle, ce morceau est présent à un moment donné parce que je fais un aller-retour entre les tranchées et l'arrière. Et c'est vrai que les lettres sont reçues par la sœur. Il y a un personnage qui est Mademoiselle Jeanne, qui est assez riche, pour qui la sœur fait de la couture, et donc c'est le printemps, elle se fait faire des robes de printemps pendant que les gens se font tuer au front. Ma foi, c'est comme ça, hein. Donc on aura Mademoiselle Jeanne dans les fleurs, en train de se faire mettre des épingles sur sa robe rose.
Ce qui m'a fasciné le plus, j'ai l'île de paix, c'est d'abord qu'elle se félicite d'être la seule île naturelle dans le Léman, même si elle est très petite, un îlot qui mesure pas plus que 40 mètres carrés. Ce qui est fascinant aussi, que cette île, qui n'est qu'un petit rocher dans le Léman, n'est pas habitée par des hommes, mais elle est habitée par des oiseaux, c'est-à-dire des cormorans. Les cormorans, qui sont assez rares en Suisse, ils font station sur l'île de Paix quand ils migrent, et ils font station surtout sur le grand arbre qu'il y a. Comme c'est souvent le cas, quand il y a des petites îles où il n'y a pas grande documentation, il y a beaucoup de légendes et des histoires qui ne sont pas prouvées, mais qu'on se raconte pendant des années et même des siècles. Et là, il y a, entre autres, une jolie historiette qui dit que cette île, elle a été offerte à la reine Victoria de l'Angleterre. On dit que la reine Victoria, elle s'est bien réjouie de ce cadeau, mais elle ne l'a pas gardé longtemps, elle l'a refusé finalement, parce qu'elle ne voulait pas payer les impôts.
Déjà, vous connaissez l'île de Paix,
Oui, bien
Nathalie
sûr,
Pfeiffer.
C'est une jolie petite île. Bien sûr, une jolie petite île que j'ai regardée beaucoup. Quand on est enfant, ça fait rêver. Une île sur le lac, ça fait vraiment rêver. Et je savais qu'elle était à la reine d'Angleterre, mais je ne connaissais pas l'histoire des impôts.
Donc vous êtes né à la Tour de Paix, en face de l'île. Dans quelle famille êtes-vous arrivé au monde ?
Dans une famille tout à fait, j'allais dire, normale, avec un père avocat et une maman à la maison. On était quatre frères et sœurs, donc beaucoup de monde à table, beaucoup de vie autour de moi. J'étais la plus petite, donc bien sûr un peu bousculée par les frères et sœurs, évidemment.
Et bousculée, puis, mais aussi chuchotée.
Oui, certainement. Ben, c'est ce qu'on disait. La légende veut que les mamans chouchoutent les derniers. Donc, vous devez certainement avoir raison. Et puis, un jardin. J'aime bien cette phrase de Bouvier qui dit qu'on naît dans un jardin et qu'on meurt dans un jardin. Et c'est vrai que la première naissance, je trouve que c'est dans un jardin qu'on explore le monde.
Vous aviez la chance d'avoir un jardin, donc une maison.
Oui, on avait une maison familiale. Bon, à l'époque, c'était, je sais pas si c'était vraiment, c'était une chance, oui, mais enfin, c'était une maison tout à fait normale avec un petit jardin autour.
Il y avait une balançoire.
Et il y avait une balançoire. Non, mais j'ai passé des heures sur cette balançoire, vraiment dans le mouvement, parce que je restais pas sur la balançoire arrêtée, je me balançais vraiment. J'ai fait des figures, je me croyais au cirque.
Vous étiez déjà un petit peu comédienne dans l'âme ou artiste dans l'âme?
Bah, en tout cas, je me voyais sur un trapèze, je me voyais, c'est génial de se balancer, hein. Et j'étais près des oiseaux, et je rêvais, je chantais sur la balançoire. J'y ai passé vraiment des heures et des heures. Les voisins n'étaient pas toujours très contents, je crois.
Quelle était votre place dans la fratrie, je veux dire la cadette, mais autrement, psychologiquement, vous étiez plutôt la rêveuse?
Ben, psychologiquement, non. Le cadet, c'est le petit pousset. J'ai lu un livre à ce sujet, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur la place dans la fratrie, qui est très intéressant. Et je me suis bien reconnue, c'est vrai, dans le petit pousset, qui est celui qui doit partir, quitter la maison et trouver des solutions à l'extérieur.
Astucieuse
pour sauver, entre guillemets, la famille. Quoi.
Et ça, vous avez réussi?
Je suis toujours en train, hein. On n'a jamais fini.
Est-ce qu'il y avait une personne de votre famille qui a eu une importance pour vous? Moi, je connais un peu la réponse, mais je vais voir si c'est la vôtre. Est-ce qu'il y avait une grand-mère, un grand-père?
Ah oui, alors, je crois que toutes les personnes de ma famille ont été importantes finalement, hein, mais chacune a des moments différents et a des stades différents. Donc c'est vrai que toute petite, c'est mon frère qui a été important parce qu'il a beaucoup joué avec moi et il a fait de moi un peu un garçon manqué. Ma mère a été très importante aussi parce que au divorce de mes parents, elle a accueilli énormément de monde dans cette maison. Donc on a eu une foule de copains de mes frères et sœurs qui sont venus. Et cette maison a été vraiment un endroit plein de vie. Et puis ma grand-mère, un peu plus tard, à l'adolescence, qui m'a fascinée par son histoire.
Une des grand-mères, la grand-mère maternelle ou paternelle?
La grand-mère paternelle, parce que elle était née en Russie et qu'elle avait vécu en Russie et qu'elle me racontait ça. Et adolescente, déjà, c'était...
Pas n'importe où en Russie, à Saint-Pétersbourg.
Oui, à Saint-Pétersbourg. Et c'est vrai que du coup, déjà à l'époque, j'aimais rentrer dans l'histoire et dans la vie des gens. Et ce récit, qui était devenu un peu mythique, de sa vie en Russie, qu'elle n'avait jamais revue, et a pris beaucoup d'importance pour moi à un moment donné.
Elle a quitté la Russie, elle avait 7-8 ans, elle était, ou plus,
un peu plus, je me souviens. Elle avait 12 ou 13 ans, voilà. Je pense.
Elle avait des objets aussi qu'elle a emportés.
14 ans même, 14. En 18.
Ouais. Elle a quitté à cause de la Révolution,
oui,
comme beaucoup
de
Suisses d'ailleurs.
Oui, à cause de la Révolution, elle a quitté, ils ont emporté des objets. Enfin, c'est un récit qui m'a permis de faire un spectacle il y a quelques années, qui s'appelle Une enfance à Saint-Pétersbourg, et un livre qui en a découlé, et je pense qu'il y aura bientôt un documentaire d'ailleurs où cette histoire va apparaître, parce que j'ai été contactée récemment par un réalisateur.
Et quelle adolescente étiez-vous? Rebelle, rêveuse, amoureuse?
Alors je dirais plutôt rebelle. Plutôt rebelle, mais c'est peut-être aussi l'époque qui voulait ça. Donc, mais j'ai fait mon gymnase à Lausanne, à la Cité.
Donc rebelle, mais avec quand même la tête bien faite.
Oui, 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 j'ai quand même. Il y a eu un moment qui était un peu difficile. Hein. Vers 16 ans, là, ça a été un peu. J'ai fumé quelques joints. Je ne sais pas si j'ose le dire à la radio, mais je pense que maintenant.
Il y en a pas mal qui le disent.
Voilà. Et puis la police m'a pris, on m'a interrogé durement. Et puis, du coup, on a déménagé à Lausanne et au gymnase, et ben, ça a donné le tour, en fait. J'ai rencontré d'autres copains, d'autres amis, et j'ai réalisé que c'était pas forcément utile. D'ailleurs, maintenant, je suis assez contre, en plus. Et du coup, non, j'ai eu envie à Lausanne. C'est la culture qui m'a plutôt attirée. Le centre autonome, les concerts, le cinéma, sortir avec les copains, tout ça, ça m'a beaucoup plu à Lausanne. Ouais. Enfin, le barbare, la palue, tout ça, bien sûr. Moi, j'étais à la Mercerie, à l'ancienne académie aussi.
Au gymnase, donc, de la Cité.
C'était un super quartier, vraiment.
Je rappelle le titre de votre spectacle, Nathalie Pfeiffer, 1916, Ciel bleu à l'horizon, lettre d'un poilu de la Grande Guerre. Ça commencera le 26 avril à l'Oriental, à Vevey.
Entre nous soit dit, Lydia Gabor.
I met you at an age when we were certain that playing games behind the curtains
was everything we'd ever need to know. Never heard of jealousy. What's good for you is good for me. The five fingers of my hand with me until the end. You'll never walk alone. We're one for all. When we cruise together, people call it rock and roll. I'd fight for you if you were right or wrong. I know together we are stronger. The highway of our life goes on and on. The road is paved in gold. Let's be together until we're old. The five fingers of my hand with me until the end. You'll never walk alone. We're one for all. When we cruise together, people call it rock and roll. If I ever have to sing this song on a rainy day when you are gone, when you well be sure, I'll make sure. Well be sure, I'll make sure. Please be sure, I'll make sure. The shout it even louder.
Five Fingers, Bastien Becker, sur la première.
Le véritable tapissier décorateur se fixe pour tâche de conseiller son client pour l'installation complète de son intérieur. Ce n'est pas un détail ou un autre qui l'intéresse, mais l'ensemble. Il cherche à créer avec les meubles, les tentures, les tapis, les bibelots, les tableaux, un ensemble harmonieux qui satisfasse à la fois son goût artistique et celui du client.
Ah, voilà qui donne de votre métier une magnifique vue d'ensemble et qui fait comprendre combien on peut s'y attacher. Mais vous travaillez, dites-vous, selon le goût de vos clients. Je suppose que rien ne doit être plus divers et souvent plus surprenant.
La tendance actuelle marque un retour très net vers des formes sobres et simples, mais cependant élégantes et surtout confortables. Pas de fioritures, pas d'uniformité. On note également un goût très vif pour les choses de chez nous.
Une archive de la radio. Oh. Si ce roman qui date, on l'entend au petit grésillement. Tout ça pour dire que votre première formation, on va dire, c'était tapissière. Oui. Alors comme vous dites aussi dans une interview, comme Molière et Miu Miu, donc des belles références. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire un apprentissage 4 ans de tapissière?
Ben, je pense que j'avais envie de faire un métier artistique, puisque j'avais eu la chance d'être en zone pilote en artistique anglais, ça c'était formidable.
Donc au gymnase?
À Vevey. La Tour de Paix à Vevey était la première zone pilote de la région, donc on avait l'école réformée. Hein,
une expérience, en fait.
Oui, une expérience. Et là-dedans, il y avait une section artistique anglais, dans laquelle on m'avait mis finalement, puisque j'étais nulle en latin, nulle en maths, nulle en tout ça, bon. Donc en artistique anglais. Et après, je suis allée au gymnase en général littéraire. Donc j'avais envie de faire quelque chose d'artistique. Je voulais faire dessinatrice en bijouterie, mais c'était très compliqué. Il fallait très bien savoir dessiner, il fallait aller à Genève, vous vous rendez compte?
Oui, à l'école de
Genève.
Oui. C'était loin.
Ah, c'était loin. Et puis il fallait être très très bon. Alors après, j'ai voulu être potière, parce qu'il y avait beaucoup de céramistes à l'époque. Mais là, mon père m'a quand même dit que j'allais jamais rien gagner. Donc voilà, donc je me suis dit, ah bon. Alors après, je me suis vue décoratrice, mais moi, je me voyais, comme votre décorateur là de l'interview, je me voyais au milieu d'un salon,
à
dire
tout
à madame la sous-préfète, mais prenez-moi ces rideaux, chère madame, ce tissu.
Avec ces tapis.
Avec ces tapis, c'est extraordinaire.
Et
ce bleu délicieux, ce coussin sera merveilleux. Mais en fait, c'est pas du tout ça que Nenny, c'était 80% manuel, donc on m'a collé dans un atelier.
Avec des petits clous.
Avec des petits clous, 45 heures par semaine. Ça m'a bien déniaisé, on dira, sur le métier. Après, bien sûr qu'il y a des décorateurs qui deviennent ce que j'ai imaginé.
Designer, tout.
Mais ça. Du coup, ça m'a permis, en étant assise avec ma bergère entre les jambes et mes clous dans la bouche pendant 4 ans, 45 heures par semaine, ça m'a permis d'écouter la radio. Beaucoup. Là, j'ai fait connaissance avec des tas de gens qui étaient vos aînés, Lydia. Et ça m'a permis de rêver, surtout.
D'accord.
Et j'ai rêvé. J'ai vraiment rêvé en écoutant la radio.
Mais est-ce que ça vous a appris quelque chose? Je veux dire, est-ce que ça y reste quelque chose?
Oui, ah ben bien sûr. Ah ben ça m'a appris à travailler avec mes mains et ça, c'est quelque chose de formidable. Je croyais que j'étais pas douée en couture. Je croyais que je savais pas planter un clou, que je savais pas visser une ampoule. Maintenant, je sais tout faire, moi, avec une perceuse. Et c'est important dans notre métier parce qu'on est des artisans du théâtre, on fait tout nous-mêmes.
Oui, et quand vous faites une mise en scène, vous avez aussi des références de style, de choses comme ça qui vous permettent de tout de suite visualiser un peu ce que vous voulez.
Mais bien sûr, il faut être débrouille, hein, comme on dit. Je crois clairement à ça, cette vision du patronat suisse où le patron, c'est celui qui sait tout faire dans l'entreprise. Pour moi, dans le théâtre, c'est la même chose. Je suis metteur en scène, mais je dois tout savoir faire. Et quand je parle avec le décorateur, la décoratrice, qui m'a fait là, un magnifique plan incliné pour le spectacle 1916, c'est important de visualiser, de voir, de comprendre les dimensions, de savoir le travail qu'elle fait. Bien sûr, hier j'ai été chercher une poussette des années 30, j'ai tout de suite discuté avec le brocanteur, je savais de quoi il parlait, enfin, si, c'est important.
Donc ça a donné un background, certaine culture aussi.
Oui, toute une culture historique des styles, bien sûr.
Et donc, vous disiez, vous avez beaucoup rêvé pendant ces 4 ans.
Alors, rêver, je crois que rêver, c'est très, très important, puisque tout projet naît d'un rêve, vraiment. Et
c'est ce que vous dites, je crois, dans votre présentation pour ce spectacle, que tout projet naît d'un rêve.
Et c'est vraiment important de se laisser le temps de rêver. Alors, rêver, c'est pas une mesure passive. Hein. Jean-Jacques Rousseau, il faisait des rêveries. On organise une rêverie. C'est pas quelque chose d'inactif. C'est pas rien faire dans son canapé puis regarder des séries. Rêver, c'est pas ça. Rêver, c'est laisser un espace-temps dans son esprit pour imaginer d'autres choses et pour faire grandir une fantaisie qui va devenir un projet et qui est faite pour peut-être un jour pour être réalisée. La nature a horreur du vide, donc elle laisse pousser des choses. Donc on doit avoir des moments de vacances, de latence, de rêve, où on laisse son esprit se faire envahir par le grand lac tranquille qu'on a au-dedans de nous-mêmes, finalement.
Si on a de la chance. Parfois, il n'est pas tranquille. Mais vous, votre rêve vous a amené à Paris.
Oui. C'est-à-dire que...
Et c'est là que votre vie commence, en fait. Enfin, voilà. Toute cette vie, elle a préparé. Mais Paris représente quelque chose pour vous. Ces quelques années à l'école de théâtre, etc.
C'est-à-dire que je me suis sentie juste là où j'étais. Alors que finalement, jusque-là, j'avais pas trouvé l'endroit où j'étais juste. Je faisais les choses, bien sûr, et souvent avec plaisir, mais on me disait que j'étais pas tout à fait à ma place. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient des cours de théâtre. J'ai compris que j'étais à ma place. Donc après, je pouvais rien faire d'autre que ça. C'est-à-dire que, voilà.
Quelle école de théâtre avez-vous suivi?
J'ai fait un cours privé qui s'appelle Nicole Mérouze. C'est une dame qui a bien 80 ans maintenant, mais je la vois toujours quand je vais à Paris. On était 55 en première année et tous vraiment, c'est vrai, quoi, fous de joie, vraiment, fous de joie. Pas beaucoup de gens de Paris, d'ailleurs beaucoup de gens de province aussi. Donc j'ai fait connaissance avec beaucoup, beaucoup de personnalités et on avait vraiment envie, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un peu ringard de dire ça, mais on répétait chez les uns, chez les autres, dans des chambres, on courait dans le métro avec des textes sous le bras, et on était ravis de faire ça.
Mais ça fait pas ringard du tout, ça fait plutôt envie.
C'était pas des écoles liées à la souffrance, parce que je sais que maintenant, il y a pas mal de cours de théâtre où on drille les comédiens, on leur dit c'est l'école, là, on leur fait mal, on veut les épuiser, je sais pas, enfin, on veut qu'ils vomissent sur scène, je sais pas. Non, nous, c'était pas ça, hein. Il y avait beaucoup de joie, on buvait des bières après, on faisait des fêtes, et puis, voilà, on disait pas tellement qu'on se mettait en danger, on montait sur le plateau et puis on se faisait engueuler, quoi.
Et vous avez continué des études de théâtre, je veux dire, non seulement vous avez fait cette partie école, mais je crois que vous avez fait des diplômes autour du théâtre.
Oui, après j'ai eu envie de, parce qu'on faisait rien sur l'histoire du théâtre, on faisait rien sur l'esprit critique, on faisait rien sur la mise en scène dans ces cours de théâtre parisiens, donc après j'ai eu envie de faire ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais rentrer à l'université de théâtre, puisqu'à Paris, il y en a une. Il n'y en a pas à Lausanne, je vais faire ça. Mais je n'avais pas vraiment le droit, parce qu'en Suisse, je n'avais pas fait de maturité. J'avais fait un diplôme de culture générale qui n'était pas suffisant. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai été voir tous les présidents d'université de Paris. Non, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Avec ma grande tresse dans le dos, j'ai été les voir, j'ai pris des rendez-vous. Et j'ai dit, écoutez, mon petit monsieur, je sais pas ce que j'ai dit. Je sais qu'il y en a un qui m'a dit, non, vous n'avez pas le niveau d'études suffisant. Puis le deuxième ou le troisième, c'était à Censier, qui est une des plus vieilles universités de théâtre française, d'ailleurs. Le président, le recteur, je sais plus comment il s'appelait, le président de l'université m'a dit, mais vous m'avez l'air bien décidée, mademoiselle. J'ai dit, mais bien sûr! Si je veux faire des études de théâtre, c'est pas pour faire un métier après. De toute façon, ça sert à rien. C'est juste pour ma culture, j'ai envie. Puis il m'a dit, bon, moi, je vous laisse faire une première année et puis on verra comment ça va. Et en fait, je fais tout le cursus.
Nathalie Pfeiffer est notre invitée jusqu'à 21h. Elle signe la mise en scène de 1916, Ciel bleu à l'horizon, Lettre d'un poilu de la Grande Guerre.
Les gens prennent tout, les temps sont sous ça, les francs, comme ça d'un coup. Besoin d'un petit chouchou, d'un mirmidou, d'un grand bichou, d'un truc en plastique, en caoutchouc, une petite chose pour faire chouchou et qui flambe vite comme un madou. Les gens sont fous, les temps sont fous, les temps. Portefeuille et feuille de chou, c'est une manie, un tourlourou, une folie, comme le toutou, ce petit chien qui fait ma toux. Les temps sont fous, les gens sont fous, les gens sont fous, les temps sont fous. Besoin de leur faire une interview. Les gens sont fous, les temps sont fous, les temps sont fous, les gens sont fous. Ils sont là comme des toutous de Paris à Tombouctou quand il s'agit de avec des vignoux, des Scooby-Doo, des porte-clés, des loups-garous, andalous, ou bien hindous, en zoulou, des pipiou-piou, ils s'amusent à Pousse-Caillou, au Tirsou, au Manitou, des porte-clés, des Scooby-Doo, font qu'ils en tombent à genoux. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Les gens sont fous.
Les gens sont fous, les temps sont flous, c'est Jacques Dutronc sur la première et c'est votre choix, Nathalie Pfeiffer.
J'adore le côté réactionnaire qu'il avait. Je pense qu'il était très moderne, d'ailleurs, pour son époque. Et je pense que c'est aussi une des fonctions du comédien que j'aime bien, c'est le fait de réagir, mais pas forcément réagir dans le marasme, l'horreur, la dépression, le côté noir. Réagir parfois d'un côté gay, d'un côté festif, réagir à l'envers, j'aime bien ça.
Oui. Jacques Dutronc vous plaît?
Oui, j'aime beaucoup. Ça me fait rire en voiture et en même temps, je trouve ça pertinent, toujours pertinent.
On a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé pour savoir au fond quelle était la spécificité du théâtre. En quoi cet art se différenciait des autres arts? Il me semble que le théâtre, c'est d'abord une rencontre. Rencontre entre des artistes très différents les uns des autres, qui ont des apports spécifiques, des musiciens, des techniciens, des comédiens, des metteurs en scène, des écrivains, etc. Et puis rencontre en direct, naturellement, avec un public. Et c'est de cette rencontre que naît ce phénomène assez unique, qui ne se répète jamais exactement le même, qu'est le théâtre. Et je crois que si je devais essayer de définir un trait commun entre toutes les formes théâtrales dans lesquelles je travaille maintenant, je dirais quand même que c'est peut-être un théâtre ouvert à un large public. Je ne dis pas un théâtre populaire au sens facile, vite fait, bien fait, pas du tout, mais simplement un théâtre dont la préoccupation d'être perçu, entendu, compris, suivi d'un public large et dans son âge et dans ses intérêts et dans ses goûts me paraît prioritaire.
Vous avez reconnu cette voix, Nathalie Pfeiffer?
Oui, c'est Jean Cholet.
Jean Cholet que vous citez dans votre biographie comme une rencontre importante. Comment vous avez rencontré Jean Cholet?
C'est moi qui lui ai écrit pendant 5 ans, je crois. Je lui ai écrit chaque fois qu'il faisait un spectacle, qu'il faisait une audition, je lui écrivais en disant « Vous savez, monsieur, j'aimerais bien vous rencontrer. » Il m'a d'ailleurs répondu très poliment. Il m'a même fait passer des auditions, puis rien du tout, en fait. Et à la fin, je l'ai eu au culot quand même. Quand j'ai monté, dit à ma fille que je pars en voyage, j'avais besoin d'un théâtre. Et je savais qu'il était à son bureau le matin et je suis allée le voir avec ma collègue je lui ai parlé du projet, je lui ai dit j'aimerais bien avoir votre théâtre. Je sais pas ce que je lui ai dit, mais je me suis un peu énervée et à la fin il a dit bah oui. Et là c'est parti. Et maintenant c'est vrai que c'est une rencontre importante dans ma carrière, dans ma vie, parce que on s'entend vraiment très bien et on a beaucoup de qualités de travail ensemble. D'abord on est les deux des bosseurs. En plus je trouve qu'il a beaucoup d'humilité et d'écoute et il fait confiance aux comédiens. Et ça c'est quelque chose dont j'ai besoin pour travailler, c'est qu'on me fasse confiance. J'ai pas besoin d'un metteur en scène qui m'impose toute sa volonté et que je sois juste une petite machine à faire ce qu'il veut. Et ça, Jean, il est très humble pour ça. Mais là, dans son discours, je trouve qu'il est très gentil hein, sur le théâtre. Moi, je prendrais même le problème à l'envers. Je dirais, qu'est-ce qu'on a en Suisse? Qu'est-ce qu'on a comme complexe à vouloir tout le temps faire un théâtre? Mon Dieu, mais abscons. Mais c'est incroyable. Vous vous souvenez de Jean-Claude Carrière qui nous avait expliqué quand son spectacle s'était joué en Suisse, tout dans des tapes noires, avec des cubes noirs et un comédien tout nu qui disait « Je suis Ferrand ». Enfin, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Pourquoi on n'arrive pas à faire un théâtre qui parle aux gens au plus grand nombre et qui soit en même temps beau, intéressant?
Bon, il y a quand même, je citerai le Pull-off par exemple, qui arrive à mettre voilà, des choses classiques aussi, travailler de façon classique. Mais ce qui est très intéressant dans votre biographie, que vous n'avez pas encore publiée, mais que moi j'ai pu lire pour préparer cette émission, c'est votre rencontre après Paris avec l'ambiance théâtrale, enfin l'univers théâtral roman. Et ça n'a pas été qu'en douceur, cette rencontre. C'est-à-dire que vous êtes formé à Paris, vous avez eu quelques expériences, et ensuite vous êtes revenu ici à la naissance de votre fille, et vous êtes coltiné le milieu théâtral roman, et d'après ce que vous racontez, c'était pas tout bleu, tout rose, tout facile.
Non, alors on savait qu'à Paris, il y avait des familles, des grandes familles, que c'était compliqué.
Des baronnies.
Et moi, je suis revenue ici, mais j'étais toute contente, je me dis, bah youpi, je vais rencontrer les gens d'ici, les comédiens, on va pouvoir... c'est une famille ici, c'est petit, donc pas du tout. Oh, bah alors, j'avais pas travaillé avec stagiaire, j'avais pas fait les rades, ni les sades, ni... Alors c'était complètement fermé, en fait. En fait, c'était complètement fermé. En fait, j'ai compris assez rapidement qu'ils n'en avaient rien à faire de moi, quoi. Bon, ils avaient sûrement raison, je ne sais pas. En même temps, je peux les comprendre. Enfin, je veux dire, et c'était certainement pas une volonté politique. C'était comme ça, si vous voulez. C'était comme ça. Donc, en fait, je n'ai de cesse que de créer des liens. Moi, j'ai envie de créer des liens. J'ai envie de bousculer ces familles. J'ai envie de dire, mais pourquoi on peut pas travailler ensemble? Faisons connaissance. C'est pour ça que j'ai écrit à ce Jean Cholet 6 fois. J'ai dit, mais pourquoi tu veux pas me rencontrer? Essaye une fois, donne-moi un petit rôle de domestique qui traverse la Seine, de soubrette, enfin voilà. Je te ferai ça, ça te coûtera pas cher, pas cher. Et puis tu verras bien si ça te plaît. Je vais pas vous bouffer, je vais pas vous prendre votre place. Vous inquiétez pas.
Bon, vous avez quand même trouvé une place assez sympathique à Montreux.
Oui, alors heureusement,
au
là...
Au théâtre Montreux-Riviérain.
Là, c'est vrai, je reconnais, alors, dans du boulevard, attention, j'ai fait 20 ans de boulevard. Maintenant, tout le monde retrouve le boulevard. Hein, c'est nouveau, depuis 2 ou 3 ans, il y a plein de gens qui veulent faire du boulevard, c'est génial. Ben, faut bien vous dire que pendant les 15 années qui ont précédé, quand je disais que je faisais du boulevard, ça faisait une drôle de tête hein, au syndicat des comédiens. Ah bon, oui, ah oui, Montreux, oui, ouais, enfin... Ouais. Il y avait des silences qui se faisaient autour de la table. Enfin, j'ai servi des cafés, ça fait rien, c'était très bien.
Pourquoi? Parce que le théâtre de boulevard, c'est pas assez select. Ah,
c'était clairement pas assez. C'était clairement
mais ça
pas
fait
assez.
Quand même rire les gens, les mais gens vont. Sûr. Il y a aussi un aspect ludique.
Et puis du boulevard, il y en a du bon et du mauvais. Hein. Le boulevard mal joué, c'est très mauvais. Le boulevard bien monté, c'est difficile à faire. Voilà, mais bon, après... Alors maintenant, je fais du drame. Alors, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, mais vous faites que des pièces tristes, voilà.
Alors, parce qu'on va rappeler quelques-unes. Donc, dis à ma fille que je pars en voyage. Ça, c'était dans le milieu carcéral féminin. Oui. Il y a eu Oscar et la Dame Rose, très triste, mais très beau. Voilà. Un texte de Eric Emmanuel Schmitt, où c'est en fait une bénévole et la rencontre avec un jeune homme qui est très malade. Et il crée ce rapport à Dieu, où il écrit des lettres avec... Ça vous a rendu assez connu dans la région et à Paris.
100 fois, ouais, bien sûr.
Il y a eu aussi les ados.
Comment se débarrasser d'un ado d'appartement? Ça, c'était drôle. Alors ça, c'était bien.
Et c'était puis, très, très drôle.
Et puis Lapidé, le spectacle qui... que je finis là, cette semaine, on sera diffusé plus tard, mais Lapidé que je finis là en tournée, que je vais jouer à Avignon cet été, à la condition des soies, qui est évidemment un constat assez difficile sur la lapidation des femmes, écrit par Jean Cholet, mis en scène par lui. Et alors là, les gens me disent, c'est dramatique, vous faites que des... Je dis, attendez, pendant 20 ans, j'ai fait rire les gens, donc il fallait venir avant, je sais pas. Mais, non, mais peut-être que je ferai rire à nouveau l'année prochaine, on sait pas.
Mais Lapidé, c'est vraiment un engagement, parce qu'en plus, la pièce devait se jouer à Paris, juste après Charlie Hebdo.
Oui.
Vous avez cessé de la jouer.
On l'a aussi joué plus de 100 fois. Hein. Donc on l'a commencé à Paris après Charlie Hebdo, on a été déprogrammé. Ensuite, on a trouvé un producteur, on l'a joué à Avignon. Ensuite, on l'a rejoué à Paris pendant plusieurs mois. Maintenant, on a fait une tournée de 23 dates. Et puis, on l'a rejoué à Avignon. Il y aura probablement de nouveau une tournée. Et c'est ça que je veux dire, sortir de chez nous, créer des liens, créer d'autres synergies. Aller à Avignon aussi. Pendant des années, les comédiens ici, les gens disaient, oui, mais Avignon, c'est les marchands du temple, il n'y a rien à en faire, c'est épouvantable. C'est pas vrai. Il y a aussi des rencontres à Avignon. Il y a beaucoup de programmateurs du monde entier. Et si on a rencontré des Français qui nous ont engagés, si Oscar et la Dame Rose a été joué à l'île de la Réunion, c'est pas parce que je suis restée à Lausanne. C'est parce que je suis allée ailleurs.
Mais souvent, les artistes d'ici, on a plein d'exemples, font leur carrière à l'extérieur et après des années, sont aussi après reconnus en Suisse ou en Suisse romande, acceptés.
Ça, c'est vrai.
C'est un processus qui est...
C'est vrai que Lapidé, on l'a joué à Cambrai. C'était un théâtre de 600 places et on a eu 600 personnes debout. Et on ne peut pas le jouer au théâtre de Vevey ni à Beausobre, par exemple. Je ne sais pas.
Ça viendra.
Ça leur fait peur.
Peut-être vous l'avez joué au Terreau.
Oui, au Terreau, on l'a joué, bien sûr.
Et c'était plein.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de théâtres où on pourrait le jouer en Suisse. Et en fait, ce sont des petits théâtres qui ont eu le courage de programmer. Villeneuve, Corpato, La Tuffière, une femme qui nous a programmé. Alors qu'en France, on fait des grands théâtres. Partout. C'est comme ça.
Alors, on va revenir à Ciel bleu, dans 1916, Ciel bleu à l'horizon,
oui.
Lettre d'un poilu de la Grande Guerre. Vous êtes en train de le créer, en fait. Vous allez commencer les répétitions bientôt.
Oui, on va rentrer en résidence au Théâtre de l'Oriental. Et le Théâtre de l'Oriental, c'est un magnifique théâtre dont Vevey devrait se targuer ô combien, parce que c'était un théâtre de création. Donc, c'est un outil qui est donné aux comédiens, qui est subventionné. Donc, il est donné aux artistes pour créer là. Et tout est possible dans ce théâtre. On peut jouer à l'endroit, à l'envers, au plafond, mettre des projecteurs partout. C'est la première fois de ma carrière que je peux faire ça. Je me suis offert ce cadeau pour mes 54 ans. J'ai engagé 10 comédiens parce que je voulais du monde sur ce spectacle. Un vidéaste qui est David Klaus, qui est jeune, qui va faire les vidéos, les sons et tout ça. Une scénographe, Anne Vanier, qui a fait les décors. Les costumes, Marianne Braconnier, donc toute une équipe autour de moi.
Et les budgets, vous les avez trouvés?
Alors, j'ai pas trouvé tout le budget, évidemment, mais la loterie nous a soutenu bien.
La loterie romande,
vraiment, à chaque fois que j'ai créé quelque chose, ils sont là. Pas le canton, pas la ville, bien sûr, parce que mon travail n'est pas suffisant pour être subventionné par ces institutions. Et ils ont raison, peut-être quand j'aurai 80 ans, ce sera le moment. Et je m'en réjouis. Donc il me reste encore 30 belles années devant moi. Mais ça fait rien, j'ai plein de gens qui m'ont aidé pour ce spectacle. Beaucoup, des anciens poilus, enfin des gens qui sont passionnés de guerre. J'ai reçu des costumes du Brésil, de Toulouse.
Des costumes d'époque, donc.
Des costumes d'époque qu'on m'a envoyé, des gens qui m'ont aidé. On m'a commandé du tissu aux États-Unis, on m'a fait des costumes merveilleux. Ça, c'était incroyable. Tout le monde est... Donc, dans les comédiens, j'ai des comédiens, malheureusement, qui sont non payés. Et comme ça, j'ai pu faire ce spectacle. Il y a des gens qui ont accepté de travailler avec moi, des jeunes comédiens, parce que j'avais besoin de jeunes aussi. Il a 19 ans. Je voulais pas que des comédiens de 50 ans. Ça va pas?
On écoute.
Ah, ma pauvre maman et Marcel, il faut voir un peu l'état du pays. Il n'y a que des maisons écroulées et de petites tombes. Il y a déjà longtemps que le pays a écopé. Et si vous pouviez voir les troupes d'artillerie qu'il y a, qui aurait dit que, le jour de Pâques, je serais en route pour le front? Enfin, il faut bien faire voir que l'on n'est pas un embusqué. Allons, il ne faut pas vous faire de chagrin. Vous savez que je reviendrai bien un jour. Vous direz au revoir pour moi à tous les amis chez M. Marpeau, ainsi qu'à Anatole et sa sœur, Rosalie. Je vous embrasse fort, votre petit Constant, qui ne vous oubliera jamais. Et vous souhaite un bon muguet et surtout une bonne fête de Pâques.
À quel moment arrive cette lettre? On est-on dans la pièce?
Mais c'est le moment où il part au front. Donc il a terminé son école de recrue, enfin ça, voilà, la caserne.
Nous sommes en 1917.
1917, donc c'est la bataille du chemin. Il va se diriger en réalité vers la bataille du chemin des dames, hein, qui a été une bataille ô combien meurtrière. Et vous voyez ce jeune homme de 20 ans qui est dans le train et qui part pour le front, c'est quand même incroyable. Et qui dit « Je vous souhaite un bon muguet et une bonne fête de Pâques ». Et là, on est tout près de la période de Pâques, aujourd'hui, un siècle après. Vous vous rendez compte? Moi, je trouve ça vraiment touchant, quoi. Vraiment touchant. Et il est rentré en plein dans le feu de l'action, là, si on peut dire. Ça, c'est sa dernière lettre naïve. Avant d'avoir vu, j'ai pas vu. Mais après avoir vu, je sais. On n'est plus jamais le même. C'est fini. La lettre suivante, c'est fini. Il va voir les feux d'artifice, les premières lueurs. Et après, il va commencer à tuer des gens. Parce que c'est quand même de ça qu'on parle.
Et ça va le changer pour toujours.
Eh bien, ça change tout le monde. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vit un crime collectif? Alors, ils vont vivre à la fois l'amitié, il y a lui.
La solidarité, la complicité.
Mais oui, il y a son cousin Boulestrot, il y a Jean Leclerc, il y a Auguste L'Hôtelier, qui sont ses copains. Donc, il va vivre une amitié pas possible avec ces gens. Ils vont vivre quelque chose ensemble, mais ce qu'ils vont vivre, alors bien sûr, il y a le courage, je t'ai sauvé, tu m'as sauvé, l'abnégation, je te donne mon écharpe quand t'as froid, je te sauve les pieds parce que je te souffle dessus, mais il y a aussi, on tue ensemble. Donc, je crois qu'un des aspects que je veux montrer, c'est pas l'horreur de la guerre, parce que ça, il y a beaucoup de films qui l'ont montré, et ils l'ont très bien fait, moi j'ai pas ces moyens-là, si vous voulez. Mais l'amitié, je peux la montrer, ça au théâtre, c'est clair. Les différences entre l'arrière et la tranchée, ça je peux le faire aussi. Et puis après, comment on se dit au revoir? Et après, il n'y aura plus rien, parce qu'on ne retrouvera jamais cette amitié. Et ce crime collectif, on le garde avec soi toute sa vie, et pour les générations qui suivent.
Alors lui, c'est le personnage principal qui a écrit les lettres, mais comment vous avez créé les autres personnages? Vous vous êtes inspiré des lettres pour leur donner une existence?
Oui, j'ai fait j'ai tiré des fils dans les lettres, et après j'en ai fait des personnages fictionnels. C'est-à-dire que les personnages ont réellement existé, Auguste Loutelier a réellement existé. J'ai d'ailleurs retrouvé son petit-fils qui ne savait rien de son grand-père et qui m'a écrit des mails. Et moi, je lui ai envoyé l'écriture de son grand-père, des photos de son grand-père, et lui savait rien de ce grand-père à la guerre. Donc c'est des vrais personnages, mais après évidemment j'ai inventé des dialogues qui ont été recréés
à partir des lettres.
À partir des lettres et des caractères, parce que dans les lettres je peux pas savoir, il y a des choses dont j'ai un petit peu conscience.
Il y a sa maman, il y a sa sœur.
La maman, la sœur, le cousin Boulestro qui est plutôt un planqué, lui il est toujours là mais il est toujours un peu à l'arrière. Mais il se débrouille pour faire la lessive de tout le monde, il se débrouille pour ramener de l'alcool, de la bidoche. Lui, il est doué pour ça, donc c'est formidable. Jean Leclerc, qui est vraiment le bon ami, fidèle et honnête, qui est toujours avec lui. Auguste Loutelier, qui est un petit peu quelqu'un qui raconte un peu des histoires au front, mm-hmm. qui enjolive un peu la réalité extérieure. Mais enfin, pourquoi pas, hein, ce sont des choses qui existent. Et puis, il y a quelques gradés qui passent par là aussi. Bien sûr, mais c'est tous des personnages très vivants et ça forme une famille, ça forme sa véritable famille.
Alors, on se réjouit de découvrir tout ça. On vous souhaite vraiment un travail propice.
Merci.
Vraiment, parce que ça urge maintenant. Donc, 1916, ciel bleu à l'horizon, lettre d'un poilu de la Grande Guerre. Ça nous plonge dans cette époque, ça nous plonge dans la réalité du front. Et vous, ce côté combatif, qu'est-ce qui vous fascine là-dedans?
Dans le côté guerre, dans le côté combat.
Combat, complicité, on se tient les coudes et on y va. Vous vous sentez
oui,
un petit
ça,
peu comme ça?
Oui, c'est ça, c'est le courage. Il se plaint jamais parce qu'on a eu la vision de Céline où le soldat vraiment a peur, veut rentrer, cherche tout pour... Et là, c'est pas le cas. Vraiment, dans les lettres, j'ai vu des lettres authentiques où quelqu'un veut y aller, n'a jamais peur, veut sauver sa sœur, sa mère. Enfin, il y a une espèce d'engouement incroyable. D'ailleurs, notre page Facebook est tenue par sa sœur, Marcel. Et si vous allez sur notre page Facebook, vous aurez des extraits de lettres et vous aurez la réaction de Marcel qui est Coralie Garcia, une des comédiennes qui jouera le rôle de la sœur, qui elle s'est plongée dans le rôle de la sœur comme ça aujourd'hui.
Merci beaucoup Nathalie Pfeiffer d'être passée nous voir. On vous souhaite bon vent.
Merci.
Nathalie Schoenberg a choisi les musiques, Samuel Maurier-Genoux était en régie et Stéphanie Gauthier est notre assistante de production. Juste après les infos, plein de rêves avant la nuit. 21h sur la première. Bonne soirée à vous.